la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut.
Bonjour, je m'appelle Paul-André Claudel, je suis maître de conférences en littérature comparée à l'Université de Nantes, lauréat 2021 du prix de la Fondation Jean-Édouard Gobi, décerné par l'Institut sur proposition de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Je vais vous parler d'une recherche que j'ai menée dans le cadre d'une délégation CNRS en Égypte. Recherche qui aboutira dans les prochains mois à une publication monographique. Ce travail, récompensé par le prix Édouard Gobi, porte sur une curieuse revue publiée au Caire entre 1904 et 1912 sous le titre « Il convito, Annadi ». Rédigé pour moitié en italien, pour moitié en arabe, ce périodique bilingue entendait œuvrer au rapprochement de l'Orient et de l'Occident. Tout en diffusant en Europe une connaissance plus fine de l'islam, ces pages voulaient offrir une nouvelle lecture de l'actualité géopolitique méditerranéenne, prenant en compte le point de vue des peuples arabes. Tirage militant, visionnaire, pacifiste, anti-impérialiste, nourri de culture, pétri de spiritualité, ce journal rêva d'une alliance d'un nouveau genre entre Occident et Orient, avant que la guerre de Libye, puis la Première Guerre mondiale, ne réduise ses projets à néant. Mon étude voudrait poser un regard global sur ce périodique, en rendant compte de ses idées, de ses réseaux, de sa réception, mais également en éclairant le rôle exceptionnel de ses deux fondateurs, le médecin bolognais Enrico Insabato et l'artiste suédois Ivan Ageli. C'est cet attelage, a priori totalement improbable, d'un médecin italien et d'un peintre scandinave, tous deux installés en terre d'Égypte, qui est à l'origine de ce journal italo-islamique adressé aussi bien aux élites d'Europe qu'au monde arabophone. La meilleure façon d'introduire ce sujet est peut-être de rappeler un instant ce que fut, au début du XXe siècle, la presse d'Égypte. Nous sommes en une époque qui voit fleurir au Caire et à Alexandrie, comme l'a montré l'historien Ami Ayalon, une nouvelle opinion publique, découvrant chaque matin dans les journaux un espace d'échange et de controverse. Au café, dans les cercles de lecture, dans l'atmosphère feutrée des librairies ou dans l'intimité du domicile, les périodiques politiques sont lus avec ferveur et les avis des éditorialistes les plus engagés alimentent les conversations. En 1911, le journaliste anglais Hamilton Fyfe observe « Aucune ville n'a une ville de café plus active que le Caire. Même le matin, les petites tables en fer sur le trottoir sont bondées. Chaque fois que vous passez devant un café, vous voyez un grand nombre de tarbouches à l'extérieur aussi bien qu'à l'intérieur. Quelques personnes peuvent jouer au dé ou au domino, mais la masse lit les journaux et parle de politique. » Cette presse, lue avidement tous les matins, est loin d'être monolingue. À côté des grands journaux en langue arabe, comme Al-Aram, mais également Al-Mokattam, Al-Muayyad, Al-Liwa, Al-Manar, on identifie une myriade de périodiques rédigés en français, en italien, en grec ou en anglais, à destination des communautés étrangères installées en Égypte. Il faut rappeler que l'Égypte est à cette époque un pays multiculturel et multilingue. Le monde arabophone coexiste avec des communautés étrangères bien intégrées qui ont leur langue, leur littérature, leurs journaux, et par-dessus tout cela, certaines langues, comme le français, font office d'idiomes transcommunautaires. Pour donner un aperçu de cette variété, on peut citer quelques titres de ces journaux qui paraissent au début du siècle. Il Messaggero Egiziano, Il Giornale d'Oriente, The Egyptian Gazette, The Egyptian Mail, Tachidromos, Himera, Maalesh, Le Phare Égyptien, La Tribune Juive, La Réforme Illustrée, La Gazette d'Orient, Cinégraphe Journal, Le Journal du Commerce et de la Marine, etc., etc. Si les langues de rédaction sont multiples, les thèmes traités dans ces journaux d'Égypte sont eux aussi d'une surprenante diversité. C'est en définitive tout le quotidien et toute la vie sociale d'un pays en pleine mutation que l'on peut suivre à travers cette chronique écrite en temps réel, par fragments juxtaposés. C'est dans le contexte de cette effervescence éditoriale et journalistique qu'il faut placer la revue qui nous intéresse, Il Convito. Dans la somme des périodiques produits au début du XXe siècle, ce tirage se distingue en effet des autres par sa perspective particulière. Conçu et édité au cœur du monde arabe, au Caire, destiné à un double lectorat, à la fois européen, italophone et arabo-musulman, Il Convito offre un exemple rare dans l'histoire de l'islamologie. Entre 1904 et 1912, le périodique connut de multiples interruptions, mais il eut à son apogée, si l'on en croit son fondateur, des tirages de 5000 copies, tout à fait considérables pour l'époque. Il fut même enrichi de pages en turc ottoman pendant 1 an et demi en devenant de facto trilingue. Et il bénéficia d'une diffusion au-delà même de l'Égypte, du Maroc jusqu'aux Indes, voire au Japon. Deux figures hors du commun sont à l'origine de cette initiative. D'abord, Enrico Insabato, médecin italien arrivé au Caire à la fin de l'année 1902. Personnage sincèrement passionné par l'islam et son univers, Insabato est également un agent du gouvernement italien en Égypte, ami personnel du premier ministre de l'époque, Giovanni Giolitti. Convaincu du rôle que peut jouer l'Italie à l'égard des contrées du sud de la Méditerranée, Insabato mène une politique de rapprochement culturel avec une indépendance d'initiative qui le conduira régulièrement à des frictions avec le corps diplomatique. Le second pilier du journal Il Convito est l'artiste suédois Ivan Ageli. Peintre, critique d'art, polyglotte, converti à l'islam et initié au mysticisme soufi, tout droit venu de la bohème parisienne de la Belle Époque. Un grand nombre d'articles sont signés de son nom islamique, Abdel Hadi, aussi bien dans la partie italienne que dans les pages en arabe. On serait tenté de considérer comme assez hasardeuse l'association de ces deux hommes. Il est vrai que le rapprochement de ces deux êtres si différents en termes de tempérament, d'expérience personnelle et d'origine sociale semble constituer un curieux duo. Du point de vue politique d'Enrico Insabato, le journal a des finalités très pragmatiques. Faire en sorte que les milieux cultivés égyptiens considèrent peu à peu l'Italie comme une nation amie et fiable. Présenter le pays comme la seule puissance européenne pouvant aider à un risorgimento culturel de l'islam. Plus en profondeur, élargir la sphère d'influence de l'Italie au sud de la Méditerranée en lui ménageant une place entre la France et l'Angleterre. Pour son collègue Ivan Ageli, la question est tout autre. Il convite se présente aux yeux du Suédois de façon plus désintéressée comme un pont jeté entre deux univers, deux spiritualités, en vue de les faire communiquer. Abdel Hadi semble convaincu que par son rôle de médiation culturelle, le journal pourra conduire au renouvellement spirituel à la fois du monde musulman, faisant retour au fondement de l'islam « authentique », entre guillemets, et de la vieille Europe, gangrénée quant à elle par le matérialisme. On reconnaît, à l'arrière-plan des pensées d'Ivan Ageli, un idéal d'unité spirituelle des peuples et des religions, d'inspiration vaguement théosophiste, même si c'est bien l'islam qui est perçu comme l'élément clé de la régénérescence dont il rêve, tant pour l'Orient que pour l'Occident. Ce périodique, bien connu par les spécialistes, assez souvent cité, n'a jamais été abordé de façon exhaustive. La bibliographie le concernant est très maigre, sans doute du fait de la barrière posée par son bilinguisme, mais également de la difficulté à rassembler les exemplaires publiés, qui sont désormais dispersés entre le Caire, Rome et Stockholm. Or, cette publication mérite une étude, à plusieurs titres. D'abord pour sa durée de vie et pour son extension. Du premier numéro paru en mai 1904 jusqu'à l'ultime supplément imprimé en 1912, la créature d'Insabato et Ageli a eu une existence de plus de 8 ans pour une quarantaine de numéros, ce qui est largement au-dessus de la moyenne des revues publiées en Égypte, souvent bien éphémère. Ensuite, pour sa vocation interculturelle, Il Convito se pense comme un objet bilingue en équilibre entre monde italien et monde arabe. Son bilinguisme n'est pas un cas unique, mais il n'en reste pas moins significatif. On sait combien sont complexes les rapports entre les Européens installés à Alexandrie ou au Caire et les élites du monde dit alors indigène. Avant 1914, les périodiques choisissant de placer sur un pied d'égalité la langue arabe avec une langue européenne ne sont pas si fréquents, et le fait même que la langue retenue soit l'italien, et non pas le français ou l'anglais par exemple, est très révélateur. Enfin, et peut-être surtout, pour la tension que l'on perçoit dans cette initiative entre motifs apparents et mobiles sous-jacents. Nous sommes, à première vue, face à une revue d'études islamiques qui témoigne d'un intérêt sincère pour le monde oriental et pour ce qu'il peut apporter à l'Occident européen. C'est dans ces pages que l'on découvre notamment une des premières tentatives d'expliquer la pensée soufie et plus largement toutes les composantes initiatiques de l'islam aux lecteurs profanes européens. Les rédacteurs revendiquent leur attirance pour l'Orient, considérée essentiellement dans sa dimension de source à laquelle puiser un savoir oublié. Insabato et Ageli sont bien les héritiers d'un discours dont les racines intellectuelles remontent, par-delà l'ésotérisme fin de siècle, jusqu'à la quête d'ailleurs de la tradition romantique. Mais, tout de même, cette revue qui dépeint l'islam de façon tellement flatteuse, cette revue qui vante sur tous les tons l'amitié italo-arabe, n'est-elle pas aussi un instrument de séduction des lecteurs arabophones et, pour ainsi dire, un cheval de Troie de la politique coloniale italienne ? Que dissimulent les slogans présentant avec insistance l'Italie comme une passerelle privilégiée entre Orient et Occident, voire comme la protectrice naturelle, entre guillemets, des pays arabes ? On perçoit d'emblée, et la référence à Edward Said est ici incontournable, les tensions et les contradictions qui traversent ce projet de connaissance, qui est aussi, bien sûr, une opération de communication, voire de propagande pure et simple. Mieux encore, on saisit le relief que peut offrir une mise en perspective des visées de cette publication, telles qu'elles furent perçues en temps réel selon les prismes idéologiques de l'époque, et la lecture que nous pouvons en faire aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard, plusieurs décennies après la rupture marquée par la critique postcoloniale. Mais que raconte, page après page, ce journal ? Loin de s'en tenir à des opinions consensuelles sur l'islam et les relations Orient-Occident, il convie tôt prend part, sans réserve, au débat d'idées. Sur des sujets pouvant apparaître comme très sensibles à l'époque, de la légitimité du califat ottoman à la question des minorités religieuses, de la situation explosive dans les Balkans aux visées coloniales des grandes puissances, françaises et anglaises notamment, les rédacteurs ne craignent pas d'adopter des positions très tranchées. Quelques citations donneront peut-être le ton général du périodique. Je cite « Nous sommes contraires à l'européanisation des pays musulmans. Ce système a donné de mauvais résultats et nous considérons le soi-disant progrès comme une énorme escroquerie qui doit être dénoncée. Le mahométisme intégral, base de la civilisation des Arabes, est absolument indispensable au véritable progrès en Orient, si l'on ne veut pas que celui-ci devienne un immense, un informe foyer pour toutes sortes de pestes intellectuelles et morales. Une politique véritablement islamophile sera donc une politique réactionnaire. Et je fais cette confession spontanément, puisque le mot « réaction » dans les choses orientales prend un sens antinomique et signifie « progrès ». Dernière citation. L'Italie n'est souillée d'aucune horreur coloniale et elle rejette toute solidarité avec les monstres. Comme on le voit, par ses slogans tonitruants, le journal se forge une identité immédiatement reconnaissable. Quatre traits caractérisent sa ligne éditoriale. Le premier signe distinctif du journal est sa posture anti-occidentale et plus spécifiquement anti-britannique. Nombreux sont les articles qui expriment l'hostilité de la rédaction à l'égard de la politique impérialiste des grandes puissances. Si la France n'est pas épargnée, c'est d'abord la Grande-Bretagne qui concentre les foudres du journal en tant que nation qui occupe abusivement l'Égypte et qui maintient les populations musulmanes dans un statut d'infériorité. Deuxième trait, la rhétorique anti-britannique va de pair avec un discours très favorable à la puissance ottomane. Le journal loue sur tous les tons le rôle fédérateur du sultan turc, considéré comme le seul souverain légitime de l'islam, susceptible de faire face aux nations européennes et de présider aux destinées de l'Oumma de l'ensemble du monde musulman. Il convite au flat à longueur d'article la Grande Porte et milite activement pour un rapprochement italo-turc. Le troisième marqueur du journal est son anticléricalisme. Dès ses premiers mois d'existence, il convite au ne cesse d'évoquer les manigances des prêtres, le prosélytisme des missionnaires chrétiens, les conspirations des jésuites qui auraient donné une si mauvaise image de l'Occident et plus encore de l'Italie, considérée comme le centre du monde catholique, dans les pays musulmans. Les congrégations religieuses venues s'implanter en nombre au Proche-Orient sont représentées sous des traits repoussants, voire diaboliques, et le journal s'en dissocie tant qu'il peut afin de s'attirer la sympathie des lecteurs arabophones. La dernière cause défendue par le journal, certainement la plus importante, est celle du traditionnalisme religieux. Insabato et Agheli défendent farouchement l'islam contre les corruptions venues d'Occident, mais ils défendent l'islam dans sa pratique la plus traditionnelle, fondée sur l'autorité des chairs et sur le réseau des confréries, auxquelles s'identifie encore à l'époque une bonne partie de la population. Ce choix peut paraître bien peu moderne. À l'aube du XXe siècle, l'élite arabe cultivée, bourgeoise et urbanisée cherche plutôt à concilier les principes coraniques avec les nouvelles réalités sociales, dans une perspective réformatrice et, disons, régénératrice, incarnée par des figures de penseurs à cheval entre 19e et 20e siècle, comme Alf al-Afghani, Mohamed Abdou et Rachid Ridda. Par leur approche hyper-conservatrice de la religion Insa Batoyageli se dissocie de cet islam soi-disant éclairé qui plaide à l'époque pour une réinterprétation des textes fondateurs. Mieux encore, Insa Batoyageli manifeste leur intérêt pour l'islam non seulement traditionnel, mais mystique, initiatique, en exaltant la voie du soufisme et en valorisant notamment la figure du théologien médiéval Ibn Arabi. Or, à l'époque, le soufisme est vu comme un phénomène tout à fait archaïque, aux frontières de l'hérésie. Les représentants du réformisme islamique sont très méfiants face aux déclinaisons mystiques, voire extatiques de l'islam, qui sont accusées de s'écarter dangereusement du message orthodoxe. Peut-on évaluer dès lors la réussite ou bien l'échec de ce journal? C'est sur ce point que je souhaiterais conclure. Mon hypothèse est qu'un tel périodique, artisanal dans son fonctionnement, expérimental dans ses principes, pouvait difficilement s'inscrire dans la durée. Est-ce qu'il n'allait pas, de plusieurs points de vue, à rebours de l'évolution du monde arabe et des relations Orient-Occident? Il me semble que l'on peut identifier une triple faiblesse ou un triple échec de ce projet. La défense de l'islam traditionnel fut la première cause perdue des rédacteurs de Il Convite. Obstinément, Insa Batoyageli se réclamèrent d'une interprétation conservatrice et même antimoderne de l'islam. En mettant à l'honneur les concepts de coutume et de tradition, en défendant l'organisation ancestrale des sociétés musulmanes comme étant une chose bonne en soi et en s'opposant à toute forme d'évolution du rapport entre religion et société, ils choisirent un parti extrême, déjà en cours de marginalisation. En l'espace de quelques années, les grands penseurs du modernisme islamiste, soucieux d'adapter la loi islamique aux nouvelles conditions de vie en Orient, s'orientèrent dans une direction exactement opposée. Le panislamisme fut un deuxième pari risqué, sans doute déjà anachronique sinon dépassé, au moment où la rédaction du journal le promouvait à toute force. En soutenant l'autorité supérieure de la Grande Porte, en célébrant le rôle du calife, de calife du sultan d'Istanbul, et en rêvant d'une union politique de tous les peuples musulmans, Insa Batoyageli sous-estimèrent sans doute l'ampleur des nationalismes arabes, en plein essor dès la fin de la Belle Époque. Au moment même où la revue cessa de publier, la révolution des jeunes turcs, l'invasion coloniale de la Libye, puis la Grande Guerre, accélérèrent l'émergence en Égypte d'un nationalisme qui scella la fin d'un quelconque rêve d'union islamique. Enfin, la grande alliance italo-musulmane esquissée par le journal était destinée à ne jamais se concrétiser, balayée par la réelle politique du gouvernement italien. Le jeune royaume d'Italie n'avait pas les moyens du grand dessein méditerranéen qu'il rêvait de réaliser. La voie de l'alliance avec l'Empire ottoman et la tentative de rapprochement avec les opinions publiques des pays musulmans n'étaient au fond pour les fonctionnaires de la Consulta qu'un pis-aller permettant de concilier tant bien que mal leurs ambitions en matière de politique étrangère et leurs capacités très limitées. Mais dès que l'occasion se présenta, l'utopie fraternelle portée par Il Convito fut rapidement rangée au magasin des accessoires par l'idéologie nationaliste italienne, celle-là même qui poussa le gouvernement de Rome à l'expédition coloniale en Libye. Cette expédition coloniale libyenne marque évidemment une frontière. Après son déclenchement en septembre 1911, le discours du Convito bascule dans l'arrière-garde. L'Italie ne sera jamais ce pont pacifique entre Orient et Occident, entre tradition chrétienne et islam, caressé par l'imagination d'Insa Batoyageli. Il nous reste pourtant ce curieux objet éditorial, unique dans l'histoire de la presse du Proche-Orient. À plus d'un siècle de distance, les numéros froissés et jaunis du Convito, dispersés entre les bibliothèques du Caire, de Rome et de Stockholm, nous offrent un témoignage précieux sur les projets chimériques que pouvait susciter un rapprochement entre les deux rives de la Méditerranée à la fin de la Belle Époque. On peut considérer ce tirage avec sa vision avantageuse du monde musulman et avec ses grands rêves d'alliance entre l'Est et l'Ouest comme l'un des derniers avatars de l'orientalisme européen hérité du XIXe siècle. Comme d'autres avant eux, Insa Batoyageli construisent un système manichéen qui oppose abstraitement deux entités, l'Occident modernité et l'Orient tradition. Ou peut-être, si l'on préfère, l'Occident matière et l'Orient esprit. Cette vision très intellectualisée dérive des modes de pensée du XIXe siècle et témoigne d'un même biais méthodologique. Une trop grande révérence à l'égard des textes, une tendance à l'idéalisation, un regard hanté par les superstructures, une envie d'identifier des essences. L'orientalisme d'Insa Batoyageli est une construction mentale qui tient fondamentalement du mirage érudit, du fantasme savant, plus que d'une véritable observation de la réalité. Ce trait n'ôte rien, bien sûr, à l'intérêt du Comvite en tant que document. Élaboration idéologique empruntant à tous les champs du savoir, Il Comvite fut un périodique sans équivalent. À la fois politique et spiritualiste, dans le hic et nunc de la stratégie diplomatique et dans l'ailleurs des questions ésotérico-religieuses les plus complexes. Le mérite en revient sans doute à ces deux rédacteurs. D'un côté, le médecin informateur Enrico Insabato, de l'autre, l'artiste ésotériste Ivan Ageli. Tous deux étaient des visionnaires. L'un, calculateur et pragmatique, l'autre, idéaliste et érudit. L'un misant sur l'action humaine, l'autre sur la vie spirituelle. Il Convito aura été leur fragile point de rencontre.